voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Il y a plus de 30 ans, Isabelle et Patrice Drey changeaient de vie pour se consacrer aux plantes médicinales dans un petit village du Périgord. Pour Patrice, cultiver en biodynamie est une évidence. Dans leur pratique paysanne, les préparations à base de plantes et de minéraux permettent de régénérer les sols et de rendre les plantations réceptives aux subtiles influences des planètes. Dans cette émission Kaizen, ce couple de producteurs nous présente leur démarche inspirée et surtout inspirante. Patrice, Isabelle, bonjour à vous. Isabelle, pourrais-tu me présenter votre lieu de vie ?
Au départ, c'était un grand domaine, le domaine des Salles, qui fait 50 hectares de terre et il y avait bien 30 ou 40 hectares de bois, je crois. Et c'était même beaucoup plus vaste au départ. Et il y avait une famille qui habitait quand en 88, on a acheté. C'était une famille d'agriculteurs qui avait l'ensemble du domaine, plus tout le hameau, il y a 7-8 maisons. Et tout était un peu en ruine. Et ils habitaient une maison centrale, la maison de maître au milieu. Voilà. Et on s'est regroupés en fait à plusieurs qui avaient des projets agricoles en agriculture biologique et en biodynamie. En fait, c'est ça qui nous liait un peu. Et on s'est répartis les terres et également les maisons en fonction de nos besoins. Agricole et de l'argent dont on disposait. Voilà.
Et quel était le projet à la base ? Donc vous êtes venu ici, pourquoi ? Pourquoi avoir acheté ce lieu ? Quelle était l'idée au départ ?
L'idée, c'était vraiment de produire des plantes médicinales et en biodynamie et d'être dans un lieu qui soit plus large que notre propre activité. Parce qu'on avait déjà, depuis 1982, fait deux lieux en location, en Dordogne. Et on se retrouvait un peu tout seul sur le lieu à faire de la biodynamie avec les plantes. Or, la biodynamie, c'est normalement un concept plus global. Il y a les plantes, mais il y a des légumes, et surtout, il y a les animaux. Il y a les vaches, éventuellement, de la basse-cour, des brebis, etc. Donc, c'est la ferme globale. Et nous, on était bien conscients qu'à tous les deux, on était passionnés par les plantes, mais les vaches, ça ne nous intéressait pas vraiment. Et donc, pour faire une ferme globale, il en fallait d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, plutôt que tout faire nous-mêmes en autarcie sur un petit domaine, il valait mieux s'associer avec d'autres personnes qui avaient chacun leur projet, qui étaient chacun indépendants, ça on y tenait beaucoup, que chacun soit indépendant dans son travail, etc. Mais relié, et économiquement, mais relié par une même idée, de faire du mieux pour la terre et de pratiquer la biodynamie, chacun à son niveau et à son envie, sa façon de faire, quoi. Voilà.
Voilà, donc le mot biodynamie, pour vous c'est quelque chose de connu, mais je vais peut-être demander à Patrice de m'expliquer la biodynamie et pourquoi avoir, comment on est devenu à la biodynamie, comment est-ce que c'est entré dans votre vie, qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité l'appliquer dans les modes de production appliqués ici à la ferme Altaïr.
Pourquoi la biodynamie ? C'est peut-être avant tout une question intérieure, une question de relation avec le vivant. D'abord, le mot biodynamie veut bien dire dynamique de la vie, hein. Donc, c'est à partir de là d'essayer de comprendre, de ramener le vivant dans un domaine, mais dans la nature humaine. C'est cette relation entre la terre et l'homme qui est fondamentale. Alors, effectivement, la biodynamie, souvent moi, quand je pose la question à des groupes, qu'est-ce que c'est que la biodynamie ? Alors certains me répondent le calendrier, alors je dis oui, bon, le calendrier c'est bien, mais et pourquoi le calendrier ? Et puis petit à petit on arrive à cette idée des forces planétaires, du cosmos, et là oui, on peut commencer à entreprendre ce vaste sujet, parce que c'est un vaste sujet, qu'est la biodynamie, cette relation qu'il y a entre l'homme, le ciel et la terre.
Et donc en arrivant ici au domaine des Salles, c'est comme ça qu'on prononce, hein, des Salles, on est en 1988, donc avec cette idée de lancer ce projet qui était des plantes médicinales à l'époque, donc la biodynamie s'est imposée comme une évidence.
Oh, la biodynamie a toujours été une évidence pour moi dès le départ. Dès que j'ai commencé à travailler, c'était soit en biodynamie ou rien du tout.
Pour Patrice, c'était effectivement dès le départ une évidence, parce qu'il avait eu ses amis qui étaient d'ailleurs, il y avait un boulanger dans le Gers et un apiculteur qui la pratiquait, il était allé les voir et tout. Mais moi, quand il m'en a parlé au début, je sortais des études d'agronomie. On avait eu beaucoup de mal à avoir une journée dans toutes les études pour parler de la bio et ça avait été difficile d'obtenir ça. Et alors, il m'a parlé de la biodynamie, j'ai dit mais ils ont fumé ces gens-là, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai dit mais pourquoi pas, moi je suis ouverte à tout, mais on fait des expériences, on démarre en faisant des expériences pour voir vraiment ce que c'est. Et en fait, on a débuté comme ça en expérimentant et c'est vrai que à la lumière de toutes ces expériences, tout de suite, ça m'a convaincue. C'était vraiment, ça apportait vraiment quelque chose de plus. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, vraiment à fond, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Mais je vais m'intéresser un peu à Altaïr. Donc, on est en 88. Comment est-ce qu'on démarre un projet comme celui-là?
Comment on démarre un projet? Ben, difficilement. On a démarré même en 82, en fait. Hein. Très difficilement à deux, pendant 6-7 ans, en vivotant, en allant chercher des habits pour les enfants là où on pouvait nous les donner, en prenant pas de vacances et en vivant heureusement avec les légumes du jardin. Et au début, ça a été difficile. Mais on avait envie, on avait vraiment envie des plantes, Patrice, qu'il y ait des plantes quand je l'ai connue. Moi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était botanique, plantes médicinales. Et on s'est dit, on va essayer. Et on a rencontré beaucoup de difficultés au niveau administratif. Ça a été la galère quand même. Alors j'ai eu une chance là-dedans, c'est que le boulot que je faisais juste avant de m'installer en plante avec Patrice, je travaillais dans une chambre d'agriculture pour aider les jeunes agriculteurs à faire leur dossier pour avoir les subventions agricoles, etc. Donc heureusement, ça m'a sauvé. Ça nous a sauvé parce qu'on a pu... on connaissait un peu les rouages des papiers, les barrières. On nous a mis beaucoup de barrières, mais on a réussi quand même en allant au-delà du département, en allant taper au niveau national pour montrer notre projet, à avoir quelques subventions. Justement en 88, au moment où on était sur la tangente en se disant « Est-ce qu'on a un choix ? Soit il faut arrêter. » Parce qu'on n'a pas assez d'argent, on est parti sans rien. Hein. Donc on ne peut pas se développer, soit il faut emprunter. Et à ce moment-là, il faut aussi quelques subventions et il faut investir, il faut foncer. Et du coup, c'est ce deuxième choix qu'on a pu faire. Et on a pu enfin investir dans de l'irrigation, dans un séchoir correct et partir et vivre de notre passion en fait et pouvoir travailler ensemble tous les deux, ce qui était aussi le but de la manœuvre. Et puis petit à petit ça s'est fait totalement de façon je dirais presque inconsciente. Les choses se sont faites d'elles-mêmes. Au début, on a cherché un petit peu les clients parce que c'était pas évident. On a eu la chance de tomber sur un herboriste en Suisse qui partageait vraiment toute notre vision de la nature, etc. Et on a commencé comme ça. Et puis après, avec quelques magasins bio. Et puis après, on n'a plus rien fait. Et petit à petit, de bouche à oreille, les ventes se sont faites et on en est arrivé à se dire mais on n'y arrive plus à deux, il nous faut un associé au jardin, puis une première personne au niveau... Du coup, après moi, je me suis écartée un petit peu du jardin, j'ai commencé à m'occuper plus de tout ce qui était administratif, vente, commercialisation. Il a fallu une première salariée pour les sachets, pour faire l'ensachage. Et puis tout ça s'est enchaîné et maintenant, il y a 3 personnes au jardin qui travaillent à plein temps. Il y a 4 personnes plus moi au niveau de la commercialisation. plus deux autres personnes qui sont indépendantes, qui sont dans le village aussi, dans le hameau, mais qui font des plantes aussi et qui travaillent, qui nous revendent leur production. Et puis d'autres producteurs autour ou plus loin qui participent aussi à Altaïr. Donc c'est devenu, peut-être pas malgré nous, mais presque indépendamment de nous, quelque chose de plus grand, quoi, qu'on n'avait pas prévu du tout à l'avance. Hein. Voilà.
C'est ça, donc ça s'est vraiment mis en place petit à petit. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de jeunes qui viennent découvrir ce lieu, faire des formations et des stages ici. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de s'installer, parce qu'on parle beaucoup du problème du foncier, l'accès au foncier, donc tous ces jeunes qui nourrissent le rêve de faire un projet comme celui-là, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce que c'est accessible aujourd'hui?
Moi je dirais oui, que c'est accessible, à une condition qu'ils aient un suivi. Et le suivi, bon, je suis déjà pas mal de jeunes producteurs. Maintenant, la conception que la force de travail, la conception que j'avais par rapport à cette force de travail qu'il faut amener est peut-être plus faible que celle que moi j'ai entrepris ces dernières années, quoi. Ça bute souvent par ce manque de motivation, je dirais.
Ou l'illusion peut-être aussi, non ?
Oui, il y a beaucoup d'illusions pour certaines personnes, mais c'est vrai que confronté au travail difficile de la terre, parce que c'est quand même un travail difficile, et puis des saisons qui sont toutes différentes, alors c'est ça l'avantage, le challenge et ce qui est intéressant dans l'agriculture, c'est que c'est jamais pareil. Mais quand on démarre, c'est difficile d'avoir des saisons un peu soit caniculaires, soit trop de froid, soit trop d'eau, etc. Et c'est vrai qu'il y a des... Sur la majorité des gens, il y en a beaucoup où la motivation s'effrite au bout de 3 ans et puis ils passent à autre chose et c'est dommage parce que c'est vraiment passionnant, mais il faut s'y donner corps et âme. Et actuellement, c'est vrai qu'avec la société qu'on a autour, travailler dans les champs toute la journée l'été alors que les gens sont aux terrasses des cafés ou à se bronzer sur les plages, c'est... Voilà, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, quand on est jeune en plus, donc il faut accepter un certain sacrifice, je dirais. Et alors, une des solutions, c'est de se mettre à plusieurs, hein, comme ils sont actuellement, ils sont 3 au jardin, donc ils peuvent aussi se remplacer un peu. Mais il y a toujours une somme de travail importante, quoi. Donc ça, il faut le savoir au départ. Si on le sait, si on est prêt à ça, on peut encore s'installer en plante. C'est vrai que le foncier, c'est pas facile, mais on trouve encore des endroits.
Et on peut aussi trouver des clients qui achètent les plantes derrière. Il y a encore de la demande.
Ah oui, moi je crois. Alors là, on est tout à fait optimiste pour ça. Enfin, on encourage même les gens parce qu'il y a une demande qui n'a cessé d'augmenter depuis qu'on s'est installé. Au début, il y avait très très peu de demandes. On a essayé d'éduquer les gens à des plantes de qualité. Et ça fonctionne, il y a des gens qui maintenant ne prennent plus des plantes qui ne sont pas de haute qualité. Et je pense que pour des jeunes qui s'installent sur des plantes vraiment bien travaillées, en bio ou en biodynamie, bien séchées, avec respect, il y a pas de souci, ils vont trouver leur place sur le marché.
Isabelle, tu disais que quand tu rencontrais Patrice, il était déjà en train de faire des cueillettes. Quel type de cueillettes et pourquoi? D'où est-ce que ça vient, cet amour de la plante et cette envie de vivre autour et avec elle?
Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la possibilité de faire de la montagne à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, où c'était un petit peu des formes de scoutisme. Et on apprenait à se débrouiller dans la nature, à récolter. On ramassait des myrtilles, ça allait d'aller chercher des menthes au bord des ruisseaux, l'origan, la réglisse de montagne. Enfin, voilà. Donc c'était, et automatiquement l'intérêt s'est porté vers cette idée de qu'est-ce que la plante, et c'est bien fait.
Patrice, ta plante préférée?
Peut-être l'aubépine. Aubépine, mélisse, prunelier, oui, c'est quand même des plantes auxquelles je me sens vraiment très lié. Bouillon blanc.
Pourquoi et comment? Lié comment? De quelle manière?
Ah là Là, c'est un petit peu difficile à parler de ça, mais non, bon, c'est qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que la plante a à nous dire? Est-ce qu'il y a, c'est plutôt se relier à l'esprit du végétal qui me convient et oui, j'arrive à me relier donc au végétal. Donc effectivement, si je me mets en relation avec une aubépine, c'est quelque chose de subtil que je perçois plus que la matière elle-même. Donc cette relation qui est là, qui nous donne peut-être ses qualités thérapeutiques même en étant au pied de ces arbustes.
Mais comment on fait pour travailler ce lien, cette reliance ou ce dialogue avec la plante ?
Ça, c'est compliqué à expliquer forcément. Mais enfin, c'est pas. Il faut peut-être faire venir les choses à soi, être dans peut-être une situation intérieure relaxe, pas avoir des tas de pensées qui affluent de partout, être dedans, être avec dans le moment et ça devient une méditation, c'est un état méditatif. Oui, il se passe beaucoup de choses dans ce genre d'état. Ce qu'il faut peut-être considérer, c'est que quand on est à la production de plantes, on peut passer jusqu'à 2 heures, 3 heures dans la même cueillette et pendant des jours. Donc il se passe quand même une intimité qui va de pair, quoi. Moi, je dirais le végétal, c'est un miroir pour l'être humain. On peut se retrouver sa propre tempérance. Donc, à travers le végétal. Et on peut avoir, se reconnaître.
Parce que c'est vrai que le végétal a donc ce pouvoir qu'on connaît tous de nous nourrir. On a tous besoin du végétal pour sa survie, pour absorber l'énergie dont on a besoin pour vivre. Le végétal nous permet aussi de nous soigner. La plupart des médicaments viennent des molécules issues des plantes. Le végétal peut aussi avoir la possibilité peut-être de nous éveiller ou de nous connecter à une réalité plus grande. Tout ça, on le retrouve dans les plantes, dans le monde qui nous entoure.
Absolument. Absolument. Faire la rencontre d'un bouillon blanc, la rencontre d'une mauve, d'un bleuet, d'un souci, c'est trouver des parties intérieures de nous-mêmes et se réconcilier même avec nous-mêmes. Je dirais que moi, le travail de la plante m'a peut-être permis de rencontrer ma propre humanité.
Tu peux développer ça, c'est magnifique.
Quand on commence à approcher d'une façon un petit peu plus, je dirais, j'aime pas trop ces mots vibratoires ou énergétiques, mais parce qu'ils sont mis, galvaudés et mis à toutes les sauces. Je dirais plutôt que quand on arrive à rencontrer ces sources, des sources comme des sources lumière qui animent chaque plante, oui, c'est comme si on se rencontrait soi-même. Et ça demande peut-être à être expérimenté. Je peux pas, c'est difficile de mettre en mots. Oui. C'est intime, oui, c'est une intimité.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Mais en tout cas, en étant ici dans les jardins d'Altaïr, j'ai l'impression d'être avec deux êtres qui sont à leur place, complètement à leur place et là où ils doivent être.
Peut-être. Nous, on s'est bien sentis à notre place toute notre vie. La seule chose qui nous a manqué, c'est la montagne. On s'est senti pleinement accomplir notre projet de vie. Enfin, c'est ici et dans le jardin et dans les rapports aux autres. Ça, on n'avait pas prévu au départ qu'effectivement il y aurait ce rapport à d'autres personnes pour cultiver, pour ensacher les plantes et puis envers les clients, parce qu'on a eu pas mal de clients toutes ces années qui sont venus visiter les jardins, échanger, et c'est très riche aussi. Et puis ce rapport humain aussi avec les nombreux stagiaires, parce que c'est vrai que c'est une activité difficile et qu'il y a des pics de travail en juin, juillet, énormes pour les cueillettes, on accueillait et on accueille toujours chaque année une à deux personnes pour aider des gens qui sont justement en formation pour devenir producteurs ou cueilleurs de plantes. Donc c'est important qu'ils puissent voir sur le terrain ce qui se fait. Comme dit Patrice, c'est quand même beaucoup méditatif un jardin. Hein. C'était l'activité, une des activités des monastères et on comprend pourquoi. Et donc quand on est dans un jardin, surtout le nôtre qui est assez clos, il y a une ceinture d'arbres tout autour, c'est une clairière entourée d'arbres. On se dit, ben, on est face à nous-mêmes. Ça, c'est, on est avec la plante, mais face à nous-mêmes. Mais finalement, il y a le monde qui arrive de l'extérieur et qui vient aussi. Donc, on n'est pas seul. Et ça, c'est bien.
Ici, dans ce lieu, tu dis un lieu un peu clos, entouré d'arbres. Il y avait tout à construire, tout à imaginer, tout à mettre en place. Et vous vous opposiez à cette logique qui est celle du profit. Et qui est celle aussi de la quantité, de la masse.
Moi, j'avais connu l'agriculture intensive parce que j'ai une famille qui a travaillé plutôt du côté des Ardennes, dans la Champagne pouilleuse, ces grandes surfaces où il n'y a presque plus d'arbres, avec des champs de betteraves, etc. Et des gros tracteurs. Et c'est vrai qu'on ne se sentait pas du tout à faire ça. Et puis on n'avait pas d'argent, donc il fallait qu'on travaille manuellement. On s'est dit, la seule force qu'on a, c'est nos mains, donc faire quelque chose de très manuel. Et la quantité, ma foi, alors nous on ne parle pas de quantité, on parle plutôt d'abondance en fait. La quantité est venue petit à petit. On a eu de la chance, le deuxième jardin qu'on a travaillé était près de la Dordogne et était très riche. C'était un jardin pour les débutants. On mettait une plante, elle poussait, il n'y avait pas besoin de compost pratiquement. Donc on a appris comme ça et ça nous a bien aidé les premières années. Et puis quand on est arrivé ici, en fait, on a regardé la carte, on savait qu'il nous fallait 2-3 hectares, qu'on n'avait pas de toute façon d'argent de plus. Dans les 50 hectares, on ne pouvait pas prendre plus. Et Patrice a regardé la carte et il a dit, moi je veux le point le plus haut, c'était le souvenir de la montagne. Il a regardé le point plus haut, il a vu qu'il y avait une clairière, il a dit, oh mais ça doit aller. Et puis on a dit, allez, on va là-bas, on va voir. Et la première année qu'on a démarré ici, par rapport à ce beau terrain qui était très riche et qui donnait des cultures abondantes, eh bien, on a eu la surprise de ne pas avoir grand-chose. Parce que ça avait été une terre complètement massacrée des années auparavant, puis qui était en friche depuis des années, et qui était très pauvre. Elle était classée en lande de troisième catégorie à la MSA, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, quoi.
Alors pour suivre ce que dit Isabelle, voilà, donc par exemple, sur ces anciennes terres de bordure de rivière, 2500 pieds de mélisse, par exemple, on sortait jusqu'à 110 kilos secs, donc effeuillés, tout triés, contre 10 kilos sur ces nouveaux terrains. Voilà, donc pour donner le rapport. Donc il a fallu, et c'était bien parce que ça donnait une marge de progression énorme.
Donc là, il a fallu, donc, comment on parle, de régénérer les sols, en fait.
Régénérer les sols, oui, il a fallu donc revivifier les sols, leur redonner recréer l'humus, recréer, ramener, voilà, des sols vivants, quoi.
J'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, il y a deux forces. Il y a cette force qui est celle de protéger le vivant, de le comprendre, de communiquer avec lui, d'être en reliance avec lui, de le respecter. Et une force qui est de le détruire, d'uniformiser, d'écraser. Qu'est-ce qui se passe?
Ben oui, il y a effectivement deux forces, on le constate. Et ben il faut croire que la première va... La protection et vivifier la terre va l'emporter. Et moi, j'ai confiance. Je trouve qu'il y a pas mal de jeunes qui s'en occupent bien, qui sont motivés par ça, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Et je pense qu'on va y arriver, petit à petit. Il y a de l'espoir.
Pourquoi c'est important d'être dans le respect et la protection du monde vivant qui nous entoure?
Ben, tout simplement pour la survie de l'humain, je dirais, pour que permettre à l'homme d'exister dignement et qu'il puisse aussi se réconcilier, parce que c'est sa fin, quoi. Je veux dire, si on continue dans cette économie outrancière ou une alimentation dévitalisée, même avec des légumes qui sont gonflés, mais dévitalisés et autres, c'est toute sa conscience qui est en perdition. Enfin, c'est la mort de l'homme, quoi.
Moi, je crois que le respect de la nature, c'est se respecter soi-même aussi, le respect de l'humain, parce que il y a tellement de gens actuellement qui travaillent dans des boulots qui sont purement alimentaires, où ils font peut-être le contraire de ce qu'ils voudraient faire à l'intérieur d'eux, quoi. Et en plus, ça a des répercussions sur tous les humains autour qu'on voit pas forcément si on va pas dans le monde ou s'il y a pas des reportages qui se font. On n'aide pas à élever les autres humains autour de nous aussi. Il n'y a que en protégeant la nature, en la vivifiant, en faisant des choses de qualité que tout le monde pourra s'élever. Pas seulement les pays riches, mais l'ensemble de la Terre, quoi. Nous, moi, souvent, quand j'allais au jardin cueillir, qu'on commençait une journée de camomille, par exemple, où c'est souvent très dur, en plein été, ras de sol, et qu'on sait qu'on va en avoir pour au moins 6 heures de cueillette sans s'arrêter, etc. Je me disais, je montais, je me préparais un peu comme quand on va faire une course en montagne, et en même temps, je me disais... je suis solidaire avec les gens, je sais pas, en Afrique, en Asie, qui vont dans leur chandrille et qui vont travailler durement. Et en fait, on est tous frères là-dessus. Et si eux, ils peuvent travailler un petit peu moins durement à un moment, ce sera mieux, quoi, pour tout le monde. Voilà.
Patrice, est-ce que tu peux me montrer quelque chose ici, près de nous, peut-être dans le jardin ?
Par exemple... un magnifique calendula où on peut regarder sa brillance dans ses pétales, sa couleur, c'est voilà.
Et qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, ce calendula ?
Ah. Là, c'est ce côté, un côté réchauffant, ce côté qui se porte là dans toute cette sphère, dans cette sphère du corps, la partie du haut vers le bas, quoi.
C'est un orange un peu adouci.
Hein,
donc ça aide à calmer le feu à l'intérieur, je dirais. Hein, c'est une alliance, c'est très terrestre au départ, hein, comme plante. Y a des feuilles bien incarnées, des tiges. Voilà, on sent de l'eau dedans, hein, y a l'eau qui circule. Et puis on arrive à ces pétales, il y a un parfum très... Oui, encore que là, c'est l'automne, on le sent moins, mais c'est très collant, donc on sent encore l'eau qui arrive, et en même temps cette brillance, cette douceur des pétales qui va permettre de nous apaiser intérieurement. Alors je dirais au niveau des inflammations, mais même au niveau des inflammations de l'âme, c'est-à-dire que...
Refermer les plaies.
Voilà, refermer les plaies. Et on avait d'ailleurs fait une... Il y avait un ami qui avait des problèmes et tout. Il m'a dit, fais-moi une petite tisane. Bon, il avait des problèmes de foie un peu, mais aussi un peu de dépression, etc. Donc, j'avais fait une tisane. J'avais mis pas mal de soucis, de calendula. Et je lui avais mis tisane anti-soucis. c'est un petit peu ça.
C'est vrai qu'il y a aussi tout le côté émotionnel. Hein. Les plantes peuvent aussi jouer sur l'émotionnel de l'être.
Absolument, oui. Oui, et d'où la fabrication aussi d'élixirs floraux à partir de toutes ces fleurs, quoi. Donc on peut retrouver toute la tempérance qui nous manque et qui vient compenser un petit peu nos faiblesses d'âme.
Chose que vous faisiez aussi ici, hein, des élixirs floraux et des stages, hein, je crois, ou des séminaires.
Oui, pas depuis des années, hein, depuis quoi, une décennie, une grosse décennie. Voilà, donc c'est aussi un aboutissement, c'est aussi une façon de pouvoir retransmettre tout un travail qui a été fait en amont depuis tant d'années, quoi.
Patrice, Isabelle, merci beaucoup.
Eh bien, merci.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.